Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 cannes.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caboué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui essaye d'éviter de polluer, de réchauffer, de penser en rond et en tout cas qui prend le temps de ne pas aller vite sur le temps de la nature. Avec aujourd'hui à la technique, en remerciant vraiment de tout cœur son directeur Philippe Dousseau, Stéphane Fabre également, France Bleu Champagne Ardenne donc qui sont là, qui assurent cette technique. Merci à Julie Hérault et Anne de Amorin. C'est Marion Lollet qui est notre assistante. Je n'oublierai pas Jean-Christophe Pinaza ni Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission depuis Paris. Alors, une petite humeur, vous vous en doutez bien. Donc, nous sommes en direct de ce festival de la photo animalière de Montier-en-Der avec des photographes migrateurs, naturalistes du monde entier, clic-clac-souriez, amis à poil et à plumes. Vous êtes filmés. C'est pour le grand trombinoscope de la nature. Chaque année à Montier-en-Der, la nature a rendez-vous avec le silence de l'automne et sa fabuleuse collection de clichés qui fait quand même vibrer en nous quelques cordes ancestrales. Ah, faut quand même que je vous dise, on a dîné hier soir. Le repas était excellent. On a commencé par une petite soupe aux ailerons de requin, ensuite une grue cendrée à la broche, suivie d'un tartare de dauphin, et pour finir, donc un carpaccio d'ours blanc glacé au dessert. Voilà, non, mais vraiment, on est bien reçus. Je plaisante, bien sûr, ne vous affolez pas. C'est quand même ce qu'il fallait pour nous remettre de nos émotions, donc après la sortie de route de Jean-Louis Borloo au Grand Prix de Matignon le week-end dernier. Notre ex-champion n'a hélas pas réussi à négocier le virage à 180 degrés du fameux « l'environnement, ça commence à bien faire », et c'est François Fillon, un as du volant, qui reprend la route pour la dernière spéciale du rallye 2012. Assisté aux énergies de l'avenir par Éric Besson, son copilote qui nous annonce au prochain virage un Grenelle du nucléaire à tous les étages, ce qui fait que chez EDF et Areva, eh bien ça clignote partout, c'est déjà Noël pour eux. Et la suite, bah, c'est chez vous, en Champagne-Ardenne, bah oui, parce que Bure, Soulaine, c'est pas très très loin d'ici quand même, avec ses entrepôts de déchets radioactifs à très longue vie. Donc les enfants, soyez très bons en physique à l'école, parce que c'est vous qui allez résoudre le problème. Mais ce ne sont pas ces rayons-là qui impressionnent nos pellicules ici au Festival de la Photo Nature. Non, nos amis les bêtes, ici, on les déguste avec les yeux. On craque pour les bœufs musqués, pour les guépiers d'Europe qui sont à la parade, pour la reine des Philippines et autres léopards des mers qu'on espère voir encore longtemps sur cette planète et pas seulement en photo. Alors, qu'aurait dit comme voisin donc, le général de Gaulle, puisqu'évidemment il repose ici, pas très très loin à Colombey, la croix de Lorraine s'est levée de la victoire, donc encore pour nous des raisons aussi peut-être d'y croire. Et est-ce pour cela peut-être que les grues cendrées se posent ici, parce qu'elles aussi pratiquent le vol en V, donc celui de la victoire de la vie. Alors, amis de la nature de Montier-en-Der, de la Haute-Marne, bonjour à tous! Merci d'être avec nous donc ici présent avec, je vous le rappelle, beaucoup de monde. Je me tourne très vite vers vous, Monsieur Lafarge, parce que vous êtes donc Régis Lafarge, le président de cette superbe manifestation déjà depuis longtemps. On est à la 14e édition avec Régis Fournel, avec Pascal Bourguignon, avec Olivier Varin, avec Maud Potier et surtout énormément de bénévoles. Vous avez monté cette affaire. Comment ça s'est passé? Commune de 2000 habitants, soyons très clairs, on ne connaissait pas forcément Montier-en-Der. Vous êtes dit, il faut effectivement faire bouger aussi ce territoire. Et puis, on a quand même les grues qui n'étaient pas loin.
Oui, en effet, on a fait bouger le territoire depuis quelques années, depuis 14 ans déjà, grâce à quelques passionnés et à 500 bénévoles qui viennent nous assister pour faire en sorte que nos amis les photographes puissent exposer dans des conditions assez féeriques.
Et puis c'est de la rencontre aussi, parce qu'il y a des amateurs, il y a des professionnels, enfin tout le monde y est.
Oui, c'est une rencontre humaine et avec des photographes passionnés, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est toujours un moment de grande participation et d'échange entre eux, et finalement au fil du temps, ils deviennent nos copains.
Et puis c'est beau, et le beau nous fait du bien. On va en parler tout à l'heure avec Hans Sylvester qui est avec nous, avec Olivier Folmy, avec Vincent Munier également. Tenez, on va se faire aussi une petite actualité avec Frédéric Danhué qui est aussi présent. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes ingénieur en environnement, vous intervenez assez régulièrement dans l'émission, vous avez écrit l'Atlas du réchauffement climatique, vous avez écrit La fabrique de nos peurs. peur, quelle France en 2030, avec aussi de la prospective intéressante. Et puis, les malices de la nature, ça je tiens à le dire, parce qu'on vous retrouvera dimanche 28 dans Vivre avec les bêtes avec Fabienne Chauvière. Ce sera donc dimanche en 8. Alors, cette actualité, on l'a sous les yeux. C'est vrai que le Figaro a titré écologie pour NKM, un super ministère, mais sans l'énergie. Le Monde nous dit environnement, le périmètre réduit inquiète les écologistes. Bon, c'est donc notre actualité, on va dire, du jour. On en a déjà pas mal parlé sur France Inter. Mais quel est un petit peu votre sentiment ?
Le ministère, c'est oui, on est passé du MEDAT au MEDAT au MEDEM, maintenant au MEDET. Donc on a perdu une consonne, mais on n'a pas gagné en prononciation. Il va falloir refaire tous les en-têtes de lettres et les cartes de visite.
Et recycler le papier, quoi.
Et recycler le papier. Donc ça démarre assez mal. Ce qui est embêtant, effectivement, c'est qu'on lui retire les deux leviers principaux de l'adaptation du pays aux changements globaux, à savoir surtout le changement climatique et s'adapter à une ressource qui sera de plus en plus rare, qui est la ressource constituée par les combustibles fossiles. Donc on retire l'énergie, premier pilier, et on retire l'aménagement du territoire, deuxième pilier, sachant que réaménager le territoire, c'est notre seule voie réelle, structurelle d'adaptation à tous ces changements globaux. Alors, ce ne serait pas un problème si on créait derrière un vrai ministère de l'énergie et un ministère de l'aménagement du territoire. Mais ce n'est pas le cas. L'énergie passe sous Bercy. L'aménagement du territoire passe sous le ministère de l'Agriculture, lequel n'est pas connu pour être particulièrement écolo-compatible. Bref, on a quand même l'impression...
C'est qu'il y a une reprise en main des grands corps d'État.
Il y a, semble-t-il, une reprise en main des grands corps de l'État qui n'avait jamais accepté jusqu'à présent d'avoir ce super ministère qui avait une réelle cohérence, un réel intérêt pour impacter, pour dire si telle ou telle mesure dans le logement, le transport, l'urbanisme, etc. était compatible avec ce qu'on souhaite pour l'avenir.
Est-ce que ça restera, à votre avis, une priorité de notre président de la République, Nicolas Sarkozy ?
Non, ça, à mon avis, ça n'a jamais été une priorité. C'était une priorité électorale au départ pour saper un peu le vote vert. C'était une priorité aussi pour que Nicolas Sarkozy laisse une empreinte verte supérieure à celle de son prédécesseur. Il a constaté au cours des dernières régionales que le vote vert ne s'était pas reporté sur lui, que donc il n'en avait tiré aucun bénéfice. Donc pourquoi continuer à faire de l'environnement dans la mesure où, en plus, la clientèle habituelle de l'UMP, le dernier sondage l'a montré, quand on est à droite, quand on est âgé, quand on est chef d'entreprise, de façon générale, les problèmes d'environnement passent très loin après les problèmes économiques.
Malgré tout, il y a une volonté avec le Grenelle de l'environnement. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui est parfait, on le sait très très bien.
Tout n'est pas acheté, il y a eu le Grenelle, quoi qu'on en dise, même si concrètement le Grenelle, il n'y a pas eu grand-chose, la valeur symbolique est très forte, et depuis le Grenelle, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pas pour autant qu'on peut aller vers l'avant, mais la valeur symbolique du Grenelle a été très forte. Et tout ce qu'on fait, les plans climat, les agendas 21, etc., ont été relancés ou lancés par le Grenelle. Donc ça, là-dessus, on peut donner au moins ça à la droite et à Nicolas Sarkozy. Mais... Oui, Denis.
Non, simplement, c'était pour demander de terminer.
On réduit l'ampleur du ministère et en plus, on renvoie face aux Verts des centristes qui vont attirer des voix vertes. Donc il y a Borloo qui aime beaucoup certains Verts. Il y a Morin, il y a Lepage qui a quitté l'attelage un peu bizarre vert Europe Écologie. Il y a Bayrou dans le mouvement duquel on trouve Jean-Luc Benhamia, ex-Vert.
C'est que ça risque d'être dilué, quoi. Enfin,
voilà, l'idée, à mon sens, et Nicolas Sarkozy, quoi qu'on en pense, est un remarquable tacticien. L'idée derrière, c'est de faire en sorte de diluer au maximum les voix des sympathisants verts qui auront donc le choix entre ce parti un peu bizarre vert Génération Écologie, Bayrou, Morin, Corinne Lepage qui va peut-être se présenter au présidentiel et Jean-Louis Borloo. Donc tout ça, c'est tout bénéfice pour la droite.
Alors voilà, donc c'était un peu votre analyse. Après, on verra ce qui se passera de toute façon parce qu'on n'est pas quand même encore complètement en 2012. Un homme qui vous a écouté avec beaucoup d'intention, que vous connaissez, que vous admirez parce que cet homme-là donc est un des princes, faut le dire, de la photographie, c'est Hans Sylvester, donc photographe allemand, naturalisé provençal et au Marnais pendant quelques jours. Hein. Ça vous fait toujours très plaisir, je sais, d'être là. Sylvester, donc un grand merci d'être avec nous. Votre passion pour la nature, elle est née à quel moment et où ?
Eh ben, je suis né en 38 en Forêt Noire et quand la guerre était finie, donc en 45, j'étais gamin et on commençait de sortir vraiment dans la nature. On avait des vélos traficotés comme ça, vraiment très primitifs, et on partait dans la forêt et on dormait dans la forêt, on attrapait les truites à la main, on mangeait comme ça.
Et ça, c'était vraiment mes premiers contacts avec la nature.
Alors là, ça change complètement parce qu'il y a une exposition. Je tiens à dire que cette commune de Montier-en-Der est formidablement animée parce que j'ai dire que sur toutes les places, dans le haras national, à côté de l'église, vous avez des expositions et tout le monde vient en famille pour déguster cela. Et là, on peut voir votre exposition qui s'appelle La planète affolée, qui a donné aussi donc ce livre du même titre, La planète affolée, aux éditions Phage. On reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais quel est l'état d'esprit de ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ou témoigner?
Mais vous savez, moi j'étais un des premiers photographes vraiment de s'intéresser aux problèmes d'environnement. C'est moi qui ai fait le premier reportage sur la déforestation de l'Amazonie.
Et vous y avez été d'ailleurs sans aucune commande, hein? Vous y avez été tout seul.
Sans commande.
Ouais, c'est ça.
Sans commande. Je suis toujours parti avec les idées comme ça et je les ai réalisées et après ça a été publié. Donc après j'ai traité l'eau, j'ai traité tous les problèmes, mais à longtemps de ça. Et pendant 10 ans, j'étais le photographe des problèmes environnementaux dans le monde. Alors quand on fait ça 10 ans, on est vraiment au bout du rouleau. Mm-hmm. On peut plus continuer parce que voir autant de conneries que l'homme y fait à notre planète, faut arrêter. Donc après 10 ans. J'ai arrêté.
Vous êtes passé aux chats. C'est ce que j'ai vu.
J'ai fait les chats.
Vous avez fait les chats en Grèce.
Voilà.
Oui.
J'ai fait les chats en Grèce pour équilibrer moi.
Oui. Parce vous n'êtes pas responsable de la crise, hein. Vous êtes bon Grèce. Non, c'est pas à cause de
pour
ça.
Pour moi, c'est vraiment une question de survie. Parce que si on fait ça pendant 10 ans, à l'échelle mondiale, on voit trop de choses.
Oui.
L'homme, il est d'une agressivité contre la planète qui est telle que vraiment. C'est terrible.
Alors, on reviendra donc avec vous, Anne-Sylvester, et puis avec Olivier Folmy, avec Vincent Munier, donc sur ces différents thèmes. Et on a besoin de beau, donc ici, on en a. Alors, on en a avec ces différentes photos. Puis, comme on aime bien la chanson, on va vous offrir Adèle. C'est notre premier disque choisi par Muriel Pérez.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me
Voilà, toujours en direct de ce salon donc de la photo animalière. Nous sommes à Montier-en-Der, dans ce département de la Haute-Marne, avec évidemment des photographes aujourd'hui. Hans Sylvester est avec nous, donc il a quitté sa Provence. Il est très heureux d'être là quelques jours. C'est vraiment un des compagnons de route, on va dire, de ce festival, donc le 14e du nom. L'exposition La planète affolée, un ouvrage aux éditions Fage. Je reviens quand même sur le propos. Vous avez mis en opposition donc deux photos par page. Donc racontez-nous un peu ce que l'on peut voir et l'état d'esprit de ce livre.
Donc, j'ai cherché positif et négatif. Donc la nature vraiment intacte, comme la plupart des photos qu'on voit à Montier-en-Der. Et à côté, j'ai mis une photo contraste. Mm-hmm. Donc vraiment une situation terrible.
On voit par exemple une petite fille qui est recouverte de papillons monarques. Et puis de l'autre côté, on voit les sacs plastiques de la décharge de Marseille. Voilà. Et qui sont en train de voler aussi.
Ça, c'est un bon exemple où il y a des feuilles sur une rivière qui flottent et à côté, il y a les sacs en plastique qui sont dans l'eau. Donc, c'est ces contrastes-là que j'ai cherché. Ça n'a pas besoin de texte. Il y a les images qui sont tellement fortes, ça parle tout seul. Mm-hmm. Et je pense que les enfants sont vraiment très, très sensibles de voir ça. Et c'est ça que j'ai voulu.
Et en même temps, sans tomber dans l'esthétisme, parce que la pollution aussi, quand elle vient du ciel, on pense à Yann Arthus Bertrand, on lui a dit plusieurs fois, c'est que ça devient même joli, quoi. Et là, vous essayez quand même d'éviter ça. Il y a à la fois une bonne photo, mais pas de se faire avoir uniquement par la beauté de la photo.
Et ça, c'était un peu mon secret de publier tous ces reportages sur la pollution. C'est qu'il y avait toujours un aspect très... côté beauté, même si c'était une décharge, j'ai introduit un côté beauté. Et c'est que à cause de ça que j'ai publié dans les grands magazines. Oui. Sans cet aspect vraiment de beauté, jamais ça aurait été publié. Et moi, j'ai cherché l'efficacité. La photo des pommes, hein, la destruction des pommes à Cavaillon, c'est l'exemple. Cette photo vue d'avion, c'est une palette. Et ça dépasse le sujet. C'est vraiment une très belle photo, très colorée. Ça fait le tour du monde. Et donc, j'étais efficace.
Ce sont en fait des pommes qui vont être détruites pour soutenir le marché.
Voilà. Oui. Mais des milliers de tonnes au bord de la Durance. Donc, c'est une image qui a fait le tour du monde et qui est toujours régulièrement publiée.
Alors, à vos côtés, Vincent Munier, qui vient de sortir avec son père, Michel Munier, un ouvrage formidable qui s'appelle « Au fil des songes », avec un texte de Charles-Élie Couture. Moi, j'ai envie de commencer quelques vers de Charles-Élie Couture qui dit « Il était une fois, comme un frémissement, quand j'étais enfant, j'étais dans un bois. » Je parlais une langue, la langue des bois, moi qui n'ai jamais compris celle des rois. Je parlais une langue, la langue des bois, celle des animaux et des oiseaux. Alors, je ne vais pas dire que ça résume cet ouvrage, mais Vincent Munier, donc, quel est un peu le rôle du photographe? Comment vous définissez votre boulot? Parce que votre matière première, c'est la nature. Vous nous la transmettez avec beaucoup, beaucoup de poésie. Et en fait, vous venez d'une culture, d'une terre montagnarde qui est ancienne, hein, qui est usée par l'eau, par la neige, par le vent, ça s'appelle les Vosges. Et vous, c'est votre terrain de jeu au départ aussi?
Exactement, je pense que mes racines expliquent beaucoup de choses par rapport à un petit peu mon style entre guillemets photographique. Et quand tu parles de boulot, pour moi, c'est pas vraiment du travail quand je suis sur le terrain, mais c'est un véritable plaisir et l'image est souvent un prétexte pour vivre ces moments dans cette nature. Et c'est vrai que les Vosges, c'est malgré tout très petit, mais c'est une montagne, une très vieille montagne qui recèle plein de richesses, plein de richesses naturelles. Et donc ce livre, Au fil des songes, donc c'est sur les Vosges et sur la Lorraine en particulier. Et c'est un espèce de un peu un plaidoyer ou une preuve d'amour un petit peu à notre région.
Ça va faire très plaisir à Jean-Marie Pelt, hein, je tiens à le dire. Il nous écoute aujourd'hui, il
peut pas être avec nous. Exactement, on a la chance d'avoir Jean-Marie Pelt comme Laurent.
Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous trafiquez strictement rien, vous avez un regard qui est à vous, et ça devient une histoire merveilleuse. C'est-à-dire que le quotidien se trouve pratiquement sur le bord du talus, comme aurait pu le dire Giono, qui avait rencontré Hans Sylvester. Quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, comme je le dis souvent, j'ai vraiment eu j'ai beaucoup de chance, tout simplement, de vivre dans ce milieu et d'avoir eu cette éducation. Mon père qui m'a emmené déjà tout gamin, un peu comme Hans, aller coucher dehors dans les températures assez, assez rigoureuses, quelle que soit la météo, à vivre vraiment au contact direct de la nature. Et ça, ça a beaucoup influencé, voilà, tout à fait, mon travail.
Alors, je reviendrai aussi sur le Grand Nord, parce que vous êtes parti en Scandinavie, au Canada, vous allez vous parler tout à l'heure du bœuf musqué, mais je voudrais que l'on revienne donc ici, c'est-à-dire chez vous, dans ce département de la Haute-Marne, parce qu'on avait fait, nous aussi, donc un reportage, je vous ai parlé des grues cendrées, qui sont quand même des ambassadrices incroyables, quand même, de ce festival, et on va les retrouver, donc, à travers ce reportage. Chère Valérie, on part, et puis je reprendrai après, je vous poserai un petit peu le décor. On y va.
Pour moi, quand elles arrivent ici dans la Champagne humide, on peut se dire c'est le début de l'automne, l'hiver. Il y a aussi part de mon enfance qui ressurgit, parce que quand j'étais gamin, mon petit village, de l'autre côté du lac, là, on entendait passer des grues, malgré qu'elles ne restaient pas comme ça aujourd'hui, puisque le lac n'était pas créé. Et quand j'entendais passer les grues le matin ou le soir, dans la nuit, on pouvait dire, ça y est, c'est le froid qui arrive, ou c'est le printemps qui arrive.
Ah, elles ont quand même une ligne extraordinaire. Elles ont quoi
elles sont magnifiques. C'est vrai qu'elles prennent toutes leurs dimensions quand elles s'envolent. C'est un grand planeur qui fait plus de 2 mètres d'envergure.
Sont faites pour l'air.
Qui est inoubliable. Elles sont capables de faire des kilomètres sans faire de battements d'ailes. Donc
en économie, quoi.
En économie, tout à fait. Donc elles prennent les thermiques ou les ascendances. Elles montent, elles en profitent et ensuite elles planent. Elles planent.
Alors nous sommes à 220 km de Paris, vous pouvez voir un spectacle absolument incroyable, très émouvant, inutile de réserver, il faut simplement se lever un petit peu tôt, vous prenez des chaussures, éventuellement un imperméable, des jumelles, vous avez le cou tendu vers le ciel, et dans ce ciel, une calligraphie précieuse qu'on voudrait déchiffrer, celle des grues cendrées, donc qui viennent de Scandinavie, et qui se posent sur le lac de Der, donc dans la Haute-Marne, avant de repartir vers le sud. Alors c'est un échassier qui fait à peu près 5 kilos, qui survolait la France sans faire vraiment de tourisme chez nous. Et puis dans les années 70, elles ont regardé la carte, elles se sont dit, ah bah tiens, là il y a un lac. Et oui, donc ce grand lac a été créé pour régulariser le cours de la Marne et puis après de la Seine. 5000 hectares, elles se sont dit, mais il y a le gîte, je peux aussi dormir, je peux manger. On va se refaire une santé les filles, le lieu est très sympa. Alors on vous a entendu dans ce reportage, on va poursuivre avec vous. Il y a Jean-Pierre Formet qui est votre oncle, Vincent Munier, vous comme photographe aussi, Emmanuel Ferry qui est un naturaliste qui initie les enfants à l'environnement. Et je vous le promets, si vous n'aimez pas le mois de novembre, eh bien ce mois remontera dans votre estime, car on assiste à ce balai formidable, ce grand spectacle des grues cendrées. On y va.
Alors, on va expliquer pourquoi en fait on est là sur le coup de 7 heures. C'est vrai que maintenant le jour se lève, c'est donc le moment de l'éveil des grues.
Oui, donc tout à fait. Donc le lac du Der, c'est un peu le Club Med pour les grues. Ouais. Elles sont complètement en sécurité.
J'ai pas pensé, mais c'est
elles ont besoin de grands espaces pour pouvoir arriver le danger. Également d'un petit peu d'eau, entre 10 et 20 cm d'eau, pour se protéger des prédateurs comme le renard ou des chiens errants ou autres. Et donc là, elles sont vraiment tranquilles. Et le matin de bonne heure, elles vont partir pour aller dans les champs de maïs, dans les chaumes, dans les blés pour picorer et puis se nourrir.
Alors en fait, elles vont pas très très loin là.
Non, c'est sur une bonne vingtaine de kilomètres.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors évidemment, c'est un lieu extraordinaire pour les photographes que vous êtes et puis donc pour vous aussi, Vincent Munier, parce que je vois que l'appareil est bien sûr déjà prêt. Et alors vous, depuis tout petit, vous allez aux grues cendrées, quoi.
Dès l'âge de 12 ans, ils m'emmenaient donc voir la migration des grues en automne. Et donc on a fait des affûts très tôt, des affûts à cet oiseau. C'est sûr que quand on est gamin, on peut pas rester insensible à ce grand oiseau là, qui nous passe au-dessus de la tête. Ouais. Surtout que c'est des vols qui sont assez impressionnants. Là, il y a un groupe, là, c'est la première bande qui commence à partir. Voilà, donc c'est les plus matinales.
On se met un peu plus loin, allez, on y va, on va se planquer. Ça y est. Alors, c'est extraordinaire parce que là donc, on en a une cinquantaine qui passent avec donc qu'est-ce qu'on dit, un cri, un sifflement, Emmanuel Ferry.
On dit aussi qu'elle claironne. On a déjà entendu aussi qu'elle craquette. J'ai lu ça aussi, qu'elle glapit.
Elle trompette aussi. Surtout, ou elle claironne. Ouais. Surtout pendant les parades ou pendant les interactions.
Et avec ce vol en V, hein, qui est quand même caractéristique des oiseaux migrateurs.
Oui, tout à fait, de la grue et de l'oie cendrée, contrairement à la cigogne. Oui, c'est vrai qu'elles sont très bien organisées. De nouveau une vingtaine d'oies mélangées avec les grues.
Donc il y en a une qui est dominante, c'est la toute première, c'est elle qui a mis ce choix.
C'est elle qui a pris la tête, ouais, c'est un mongri qui connaît bien les zones de gagnage, donc là où elles vont se nourrir en fait, hein, et qui donc a pris la tête en fait du vol et qui a déclenché par le biais du chant, souvent ça, hein, qui déclenche en fait le mouvement de départ chez les grues. Vous avez entendu, on n'entendait rien, puis d'un coup ça s'est mis à claironner, et là regardez dans le ciel, partout ça décolle. Dans tous les sens.
Et alors là, ce sont des cris de quoi ? C'est-à-dire que là, ce sont des cris d'alerte parce qu'elles nous voient ?
Alors, elles nous ont très très bien aperçus. Vous avez vu, aussitôt qu'elles nous ont vus, le chant était plus intense et elles se sont décalées, ouais. Donc, soit à gauche, soit à droite. Hein. Donc là, elles alertent. Mais en même temps, tout ça, c'est des cris sociaux. Une grue, c'est un oiseau qui est tout le temps en train de chanter, en fait. Hein. Ouais. Donc le chant est un lien social très important. Hein.
Quelques retardataires.
On n'a pas un croisement.
Ah oui, il y avait les oies dans un sens et les grues dans l'autre. Et voilà. Qu'est-ce que ça boulotte alors ? C'est quoi ? Donc évidemment, les grains de maïs, ça ne fait pas toujours plaisir aux agriculteurs. Oui. Bon, enfin, comme d'un autre côté, ils doivent sûrement avoir des gîtes. Bon, allez, hein, c'est un service pour un autre. On va dire ça comme ça. Et puis, à côté de ça.
Ben, en fait, sur les autres parcelles de terre, elles peuvent. Bon, autres céréales, et puis aussi des glands, des escargots. Là, j'ai vu manger des escargots dans
les
des.
Les grenouilles hiches. Aussi.
Les grenouilles aussi. Oui. Donc, elle va avoir un régime alimentaire plus carnivore, en fait, lorsqu'elle va pour se reproduire. C'est capable de capturer des petits mammifères, des micro-mammifères, des.
Sur des lézards. Campagnols aussi, donc, peut-être.
Juste compagnol, mulot et autres, ça capture aussi des oisillons. C'est un oiseau qui est très très farouche en fait, la grue. Hein. C'est pour ça que de toute façon, quand on les observe, on est toujours à longue distance.
C'est allez, encore une belle formation en V sur nous. Oui. Allez les oies, allez-y, ah, hop là.
Ouais. Donc quand on regarde le oie, c'est vraiment un vol différent de la grue. Hein. Le vol est puissant, le battement d'aile est rapide, alors que la grue a un vol souple.
Elle est courageuse aussi, la grue. Elle est beaucoup plus courageuse. Hein. Donc, contrairement à la cigogne qui, elle, va profiter des ascendances ou des thermiques, la grue, si elle a comme la traversée d'une mer, la mer Baltique, elle va y aller, alors qu'il n'y a aucune thermique, en battant des ailes. Et même, elle peut décoller ou commencer une migration quand les conditions météo sont vraiment mauvaises.
Ouais. Et puis, il y a aussi, quand même, on va dire, les balais, les postures qu'elles prennent à d'autres moments.
Elle a une gestuelle particulière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un petit peu l'analogie entre la grue. Péripatéticienne.
Oui.
Et puis la grue cendrée, parce que elle a cette grâce de la démarche, elle a une gestuelle vraiment, vraiment particulière, puis les parades, quand elle a le cou dressé, la crête toute rouge, l'œil est rouge, vraiment, c'est vraiment un oiseau, quand même. Non, mais c'est vrai, hein, quand on regarde la souplesse qu'elles ont de le cou. Hein. Puis alors, les atterrissages, quand elles sortent le train, là, moi je me lasse pas.
Des amoureux donc des grues cendrées avec Vincent Munier, vous étiez dans ce reportage. C'est un reportage qui avait été tourné d'ailleurs un 11 novembre, ce qui prouve bien que les grues passent même les jours fériés. Ça ne les passionne pas, donc elles étaient là. Il y avait donc Jean-Pierre Formet, votre oncle. Et il y en a beaucoup, beaucoup cette année. On a dit, je sais pas, plus de 70 000 ici sur le lac de Der. J'ai
entendu que le dernier comptage annonçait le chiffre de 75 000, ouais. Ce qui est assez exceptionnel. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a eu pas mal de vent du sud. Donc, elles restent un petit peu calées ici en Champagne pour quelques jours en attendant vraiment les bons vents pour aller continuer leur voyage en Espagne.
Et alors, elles vous ont porté chance parce que votre premier ouvrage, donc, qui s'appelait Le Ballet des Grues aux éditions du Terran, que l'on trouve toujours, c'était sur les grues cendrées.
Exactement. Mon premier livre en 99. Ouais. C'était un bon souvenir. Et c'est vrai que cet oiseau m'a donné l'envie vraiment de partir et de voyager. Après, je suis allé voir ses cousines sur Hokkaido. Et je suis toujours autant fasciné par ce grand piaf.
Alors pourquoi celui-là ? Parce qu'il y a d'autres planeurs.
Je pense en tant qu'homme d'image, il a quand même une chorégraphie qui est quand même assez fascinante. Quand elle commence à danser, quand elle commence à chanter, à claironner, c'est vraiment visuellement c'est très fort. Et puis il y a l'aspect aussi grande voyageuse également. C'est ça qui m'a vraiment attiré. Et c'est vrai que j'ai suivi son chemin migratoire. Dès que j'ai pu me le permettre, quand j'avais 18-19 ans.
Anne Sylvester, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'en même temps, je disais tout à l'heure qu'on a absolument, en tant qu'être humain, besoin du beau. Donc vous nous montrez, vous, des photos. Alors à la fois le positif et le négatif, il faut bien nous faire prendre conscience de cela. Mais quels ont été peut-être vos derniers émerveillements que vous avez eus par rapport à la nature, vous, Anne Sylvester ?
Moi, je reviens de l'Afrique, donc de l'Éthiopie. Et là, c'est tous les jours, il y avait vraiment des émerveillements. L'homme dans la nature, là-bas, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'homme, il est encore très proche de l'animal. Donc c'est un équilibre entre la nature et l'homme qui est conservé. Donc c'est vraiment le contraire d'ici. À chaque fois, quand je suis là-bas, je me sens très bien. C'est... Chez nous, il y a vraiment une agression contre la nature. Et c'est ça qui me pose problème.
Alors ça, on va pouvoir en parler avec Olivier Folmy tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être des différences de culture, enfin il y a même carrément des différences de culture par rapport à cette nature. Quelques mots, je vous ai dit tout à l'heure, Vincent Minier, je me retourne vers vous. Vous êtes parti aussi dans le Grand Nord, hein, vous avez quitté donc les Vosges, les Grues-Cendrées, donc ici. Et alors là, moi je vois dans le dernier numéro de nos amis de, et partenaires, donc Terre Sauvage, une photo de vous qui est tout à fait extraordinaire, avec un bœuf musqué. C'est un véritable mirage qui est pris dans une espèce de tempête de neige. D'abord, racontez-nous quel est cet animal, parce qu'on en voit quand même très peu dans nos champs. Donc, c'est quoi le bœuf musqué ?
Donc, le bœuf musqué, c'est vrai que c'est un animal qui était contemporain du mammouth, qu'on connaissait peu ces derniers temps, et on a l'impression, quand on le voit de près, qu'il revient de l'âge de glace. Et voilà, j'étais vraiment passionné par cet animal, parce qu'il arrive à résister quand même à des températures extrêmement extrêmes. Il vit dans des milieux très hostiles. Voilà. Et c'est un peu ce que disait Hans par rapport à, en Afrique, par exemple, où les hommes qui arrivent à vivre avec la nature. Et moi, dans mes expéditions en Arctique, c'est un petit peu ce que j'essaye. J'essaye un peu de faire en sorte que le fossé soit un peu moins grand entre l'homme et la nature. Et j'essaye un petit peu de vivre. Essayer de vivre en totale harmonie avec elle, essayer de me tester un petit peu dans ces conditions extrêmes. Parce qu'on est complètement perdu.
Vous êtes parti tout seul, enfin. Oui, c'est ça. Vous êtes parti avec des petits sachets lyophilisés, et puis vous êtes parti pour 3-4 semaines.
Voilà,
j'ai presque dire sans balise argos, quoi. Donc,
complètement. Ouais. J'essaye de marier un petit peu l'expédition et puis la photographie. L'expédition, c'est le plus pour essayer à apprendre à me connaître. Et parce que c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu de la nature et que je suis de moins en moins bien adapté. Et donc ces petites expéditions que je fais seul, en effet, en Arctique, sur les dernières expéditions, c'est sur l'île de Banks, territoire du Nord-Ouest au Canada, où là, ben je me lance ce petit défi de pouvoir résister dans ces milieux-là, donc en autonomie complète, sans assistance, de rester pendant 3, 4, 5 semaines. Alors c'est sûr que c'est pas, il y a un petit but photographique, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment d'apprendre un petit peu à me connaître et d'être au plus près de ces animaux, comme le bœuf musqué qui me fascine.
Eh bien, on va vous offrir ce petit clin d'œil musical.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
On aurait eu tort de s'en priver, hein, ce petit clin d'œil quand même de Barbara qui a fait plaisir au public nombreux, et puis vous qui nous écoutez, bien sûr, auditeurs de France Inter, je vous le rappelle, nous sommes toujours en direct de ce festival de la photo animalière à Montier-en-Der. On pouvait faire un peu la liaison entre Hans Sylvester et vous, Olivier Folmy, parce que c'est un homme qui s'intéresse aussi au bouddhisme. Vous êtes, alors j'ai presque envie de vous présenter en disant que vous êtes un photographe humaniste. Beaucoup de gens vous connaissent ici, vous êtes le parrain de ce festival, de cette 14e édition. Vous présentez aujourd'hui donc un projet photo sur 6 continents. Je veux dire que vous êtes tibétain de cœur, de culture, d'adoption, et vous dites dans un monde quand même qui va assez mal, et ben vous prenez le parti de dénoncer ce qui va bien. Je pense que ça va nous faire une belle bouffée là aussi, bien positive. Que souhaitez-vous faire, cher Olivier?
Bonsoir, Denis.
Oh, même bonjour, parce que vous savez, bonsoir, d'ailleurs. Un peu décalé. Vous êtes levé tôt pour aller aux grues, hein, ce matin. Ça, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Oui.
Et quel est mon parti pris photographique? Eh bien, c'est de lutter contre cette tendance que l'on a de toujours montrer ce qui ne va pas. Bien sûr qu'il est important de dénoncer ce qui ne va pas sur notre terre, mais en même temps, il y a des choses qui vont très bien sur ce monde. Et personnellement, je voyage depuis 30 ans dans le monde, et je vais vers des gens qui ont une dignité, qui ont une culture, qui sont enracinés. Et ces gens-là vont bien, et ça, c'est la très grande majorité de l'humanité. Et je crois qu'il est important de faire le pendant à la destruction. Eh bien, il est important de faire le pendant par rapport à la construction de l'humanité. Et mon travail photographique, c'est de dire, attention, si on veut construire l'humanité, il faut redresser les épaules, il faut cultiver l'espoir. Si on ne fait que montrer ce qui ne va pas, eh bien, c'est de la manipulation. Et d'une certaine manière, ça nous enlève toute volonté de progresser vers le futur.
Alors ça, c'est donc cet ouvrage et donc cette exposition qui s'appelle « Sagesse de l'humanité », hein. Vous avez donc, c'est un projet photo sur 6 continents. Donc vous avez voulu essayer de développer notre humanité qui est peut-être pas encore complètement évoluée les uns les autres, mais je me posais une question en regardant cette exposition. Pourquoi en fait les sociétés riches sont-elles parfois les plus frustrées? Je dis pas toujours, mais parfois c'est quand même le cas.
Bien. Je crois que les sociétés riches sont les plus frustrées parce qu'en fait, c'est un problème d'enfant gâté. À partir du moment où on commence à être dans la surabondance et dans la surexigence, eh bien, on n'a jamais assez. C'est de la boulimie. Et je crois que notre problème, justement, la frustration, et je crois que le problème de l'écologie, il est essentiellement occidentalisé, et c'est un problème de l'Occident, et notamment, peut-être pas uniquement de l'Occident, du monde industrialisé, peut-être urbain. Et je crois que on a forcément une frustration, tout simplement parce que on s'entoure de biens, parce qu'on manque de l'essentiel, et on manque du rapport à la nature. En fait, si on avait la sagesse de revenir à une vie beaucoup plus simple, eh bien, on n'aurait pas cette frustration, on aurait du coup moins de consommation, et il y aurait beaucoup moins de problèmes d'écologie.
Alors, sur le papier, tout ça est très joli, parce qu'on le dit assez souvent, mais enfin, ce que vous dites, vous, c'est que ce ne sont pas simplement les quotas qui vont sauver le monde.
Les quotas, à partir du moment où on doit... Déjà, c'est de l'arrogance, je trouve, que de vouloir mettre des quotas par rapport à la nature, de pouvoir se prêter en maître. On est en train de jouer aux apprentis sorciers. Oui. On veut diriger la nature. On lui met des quotas, on met des règles, on veut la mettre en boîte. La nature, il faut pas oublier...
On veut mettre aussi des quotas quand on parle du temps, c'est aussi pour le sauver. Hein. C'est
oui.
Pas, oui, c'est pas que pour la diriger. Vous voyez, c'est...
Tout à fait. Oui, non, mais bien sûr. Mais en même temps, il faut faire attention qu'on tombe vers un... On intellectualise tout ça. On veut cadrer les choses. Et je crois qu'il faut revenir à du bon sens, il faut revenir à l'essentiel. Le problème, c'est pas de contrôler la nature, c'est de ne pas en abuser de la nature. Et je crois qu'il faut revenir à une humilité, à une sagesse qui vient d'une certaine forme de dépouillement.
Alors je parlais tout à l'heure de vos affinités donc par rapport au bouddhisme. Parlez-nous quand même du Zanskar, qui est quand même cet ancien royaume dépendant aujourd'hui du Cachemire indien. C'est un des hauts lieux du bouddhisme tibétain. Ce sont trois immenses vallées à 3500 mètres d'altitude. Vous aviez fait un de vos premiers ouvrages qui était fabuleux, qui s'appelle Le fleuve gelé. Mais comment on fait ? On ne se pose pas des questions d'écologie et d'environnement quand on vit dans cet univers-là ?
Non, bien sûr, puisque on fait partie de l'écologie. Je crois qu'il ne faut plus parler d'écologie simplement. Il faut parler d'écologie spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut se relier à quelque chose de beaucoup plus large que la nature. Il faut se relier même au monde cosmique. On fait partie de cet univers. On est dépendant de cet univers. Les premiers à perdre dans ce problème écologique, ce sera l'homme. Ce sera pas la nature. La nature, elle va renaître au bout de 100 000 ans, au bout d'un million d'années. Ça n'a aucune importance par rapport au monde cosmique. Par contre, l'homme, il n'est pas sûr qu'il renaisse, s'il disparaisse. Et au Zanskar, il n'y a pas ce problème écologique, tout simplement parce que les gens, ils vivent avec leur champ, ils vivent avec parcimonie. En fait, c'est la parcimonie qui fait qu'on est écologique. Et quand j'étais sur ce fleuve gelé, par exemple, avec les enfants qu'on a menés à l'école, on était en caravane, on campait, on bivouaquait au bord des berges par moins 30 degrés, eh bien, on n'allait pas faire un feu démesuré pour en abuser. On allait chercher juste le strict minimum qu'il nous fallait pour cuisiner et on restait là auprès des flammes, à prier sous les étoiles. Et le soir, on ne laissait qu'un petit tas de cendres. Il n'y avait aucun déchet. J'étais avec des peuples les plus écologiques que je puisse connaître, qui sont tous ces peuples qui vivent avec la nature, qu'on trouve au Sahel, qu'on trouve dans tout ce monde hors du monde industriel.
Vincent Munier.
C'est vrai que moi, je suis content de... Olivier le raconte si bien. Moi, c'est vrai que j'ai peu d'expérience avec les nomades ou autres. J'en ai eu quelques-unes avec les Ébènes au Kamchatka. Et c'est tout à fait ça, je suis vraiment d'accord. Et c'est aussi pour ça que j'essaye, dans mes expéditions, de s'échapper du conformisme qui endort tout le monde et qui nous éloigne de toutes ces valeurs les plus simples et qui peut nous préserver tout simplement.
Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé sur ce projet des sagesses de l'humanité avec Daniel, mon épouse. C'est que je crois qu'on peut pas dissocier l'écologie de la sagesse. L'écologie le problème de l'écologie sera amélioré à partir du moment où on reviendra vers soi pour développer une sagesse personnelle. Ce n'est pas à travers des lois qu'on va changer l'écologie. On va peut-être améliorer les problèmes. C'est évident qu'il en faut des lois. Mais en même temps, je crois que le fondement du problème, eh bien, il vient de soi, il vient de l'homme. On doit plonger dans notre propre intériorité pour résoudre les problèmes d'écologie, c'est-à-dire à modérer notre surconsommation. Et ça, eh bien, c'est un problème qui n'est pas un problème... Il devient un problème de société, mais au départ, la clé, elle est dans l'homme, elle est dans l'individu, c'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes responsables de ce problème. Et chacun de nous, nous devons résoudre le problème personnellement. On ne doit pas attendre qu'une loi résolve le problème pour nous.
Alors, vous rejoignez d'ailleurs en ce sens un peu Pierre Rabhi, puisque très souvent Pierre Rabhi nous invite à passer une espèce de conscience supérieure que l'on n'a pas forcément encore. Malgré tout, tant qu'on ne changera pas dans nos pays occidentaux les indicateurs, on va dire, économiques, presque des indicateurs politiques et aussi les indicateurs juridiques, les choses vont évoluer assez moyennement, parce que c'est quand même là-dessus que l'on peut bouger. Mais c'est tout à fait intéressant aussi que vous disiez quelques mots du Bhoutan. Donc 2 millions d'habitants à peu près, c'est grand comme la Suisse, c'est coincé entre l'Inde et le Népal. Qu'est-ce que vous avez vu au Bhoutan ?
Oui, le Bhoutan, c'est comme toute ce monde himalayen ou toutes ces populations qui vivent très proches de la nature. Ce que j'ai aimé au Bhoutan, mais enfin dans tout ce monde de bouddhiste tibétain, c'est qu'il y a toujours une relation à la spiritualité. C'est-à-dire que quand vous êtes au Bhoutan et que vous allez avoir un campement où il faut brûler des choses, eh bien, avant de faire le feu, on va allumer de l'encens pour s'adresser aux divinités protectrices de la montagne qui nous ont permis de passer là, qui nous ont permis de camper. Et on va s'excuser de souiller leur lieu. Et j'aime cette dimension spirituelle que l'on trouve aussi en Afrique, où on va toujours avoir un respect très profond envers les esprits et les ancêtres. Il faut pas croire qu'il n'y a que la nature. Il y a un tas d'esprits subtils qui nous entourent. Et il y a des énergies subtiles qui sont là et que l'on doit vénérer. Et par exemple, quand on revient au fleuve gelé, j'étais un jour avec la caravane, on bivouaquait, et c'était la pleine lune qui passait au-dessus de nous, au-dessus du canyon. Et à un moment donné, la lune s'est assombrie. C'était un début d'éclipse. Et les caravaniers, eh bien, se sont mis à prier très fort, très intensément. Et je leur ai dit, mais pourquoi il faut prier ? Il me dit, il faut prier fort pour sauver la lune. Parce qu'en fait, ce sont des insectes qui sont en train de la grignoter. Alors, Il n'avait peut-être pas la conscience de ce qui se passait, de l'explication intellectuelle, de l'explication scientifique de cette éclipse, mais il la dépassait d'une certaine manière. C'est important de savoir pourquoi il y avait cette éclipse. Il est important de s'impliquer dans ce monde cosmique et de se dire, il n'y a que nous, par nos prières, qui nous pouvons sauver la Lune. C'est-à-dire que ces hommes, ils se sentaient impliqués non seulement dans l'environnement dans lequel ils dépendaient, mais ils se sentaient même responsables du cosmos, impliqués dans le cosmos.
Voilà, ça s'appelle donc sagesse de l'humanité. Ça nous fait du bien, ce genre de parole. Hein. Je vous vois en train de regarder et d'acquiescer. Là, notre public vous écoute avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ce que je vous propose, alors je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les albatros? Vous avez fréquenté les albatros, l'un et l'autre, un peu Meunier aussi?
Non, c'est un rêve qui n'a encore pas été assouvi.
Bon, et bien, ça tombe très bien parce que Thuy de Roy, aussi photographe de son état, va nous en parler dans quelques instants. Ce sera après Neil Young.
Au lieu de chanter, les matous au lieu de miauler, les cerfs au lieu de bramer, vous feriez mieux d'écouter CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
On ne vous présente plus, c'était Neil Young sur France Inter. Je vous ai parlé des albatros. Ben, il se trouve que nous avons une invitée qui vient de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Thuy de Roy. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont photographes animalières. J'ai appris ça, c'est vraiment un milieu assez masculin.
Oui, je me demande pourquoi d'ailleurs.
Ben, on ne sait pas, c'est comme ça. Donc mesdames, prenez vos appareils éventuellement. Alors parlez-nous quand même de ces albatros, parce que c'est un animal que l'on ne voit pas exactement ici au-dessus du lac de Der. Bon, il n'a pas repéré forcément les lieux. Vous collectionnez un peu les albatros avec votre appareil?
Eh bien oui, pour moi ça a commencé avec un, parce que j'ai eu une jeunesse un peu différente. Quand j'avais deux ans, mes parents ont quitté la Belgique. Ils se sont installés aux îles Galapagos, à 1000 km de la côte de l'Équateur, dans le Pacifique.
C'est pas mal comme initiation, les îles Galapagos. Hein?
Pas mal du tout. Ouais. Pas mal du tout. Et alors là, j'ai connu mon premier albatros. Et puis, en grandissant dans ces îles, j'ai toujours un désir de quelque chose de plus sauvage encore. Et l'albatros vraiment représente le symbole de ce qui est sauvage, mystérieux, au-delà de tout ce que nous connaissons, un oiseau gigantesque d'une envergure de 3,50 m qui vole au fil des vents et des tempêtes, qui fait le tour de la planète en quelques semaines. Vraiment, c'est une fascination pour moi, alors j'ai voulu les connaître tous. Alors,
il connaît très très bien les ascendants, c'est-à-dire que lui, il va beaucoup beaucoup planer aussi. Contrairement à la grue qui va battre des ailes.
C'est-à-dire qu'il plane, mais pas comme un aigle. Il plane dans le vent, contre le vent et avec le vent. Au plus le vent souffle, au mieux il plane. Vraiment, il circule avec les tempêtes et même contre les tempêtes. Il utilise le vent.
Alors, j'ai découvert aussi qu'il y avait un certain nombre d'espèces d'albatros parce qu'on pense toujours aux îles Kerguelen, on pense à Crozet. Vous allez les voir ailleurs.
Eh bien oui, Kerguelen, Crozet, ce seront des îles que je désire encore voir un jour, j'espère. Mais les albatros sont donc disséminés, la majorité dans les îles du Grand Sud qui entourent l'Antarctique, au sud de la Nouvelle-Zélande notamment. Et c'est là que j'ai voyagé surtout dans un petit voilier que nous avons aménagé pour ça, 13 mètres, pour atteindre ces îles. Une île où j'ai débarqué, il y avait 7 ans que personne n'y avait débarqué, des îles très protégée d'ailleurs, très peu de gens ont la permission d'y aller. Alors j'ai été vraiment, j'ai eu beaucoup de chance grâce à ce projet de livre que j'ai fait de pouvoir accéder à ces îles fantastiques.
Et alors vous essayez aussi de le protéger à travers ces images parce que cet albatros, il n'est pas très en forme. Il est en fait pêché par des hameçons.
Mais oui, c'est ça.
Parce qu'il a plongé dans l'eau.
Et ça, c'est mon but, c'est de faire connaître l'albatros. Parce que, enfin, c'est vrai que la grande majorité des gens dans le monde n'en ont jamais vu un. Et ils n'ont certainement jamais vu de très près ou alors vraiment vécu avec les albatros. Et c'est vraiment émouvant de penser qu'un oiseau, un animal qui vit dans des régions tellement isolées, tellement loin de tout, loin de nous, est en fait en grand danger. La famille des albatros, 22 espèces, contient la plus grande majorité. C'est la famille d'oiseaux la plus en danger dans le monde grâce à nos activités de pêcherie de haute mer.
On n'est même pas sûr que Baudelaire ait vu des albatros, mais en tout cas, il nous a offert gratifier un merveilleux poème. Petit mot de la fin, peut-être aussi avec vous, Olivier Folmy.
Moi, je crois qu'il est important, pour finir, de dire qu'il est primordial de cultiver, de changer de regard, de cultiver le regard du beau. Parce qu'en fait, à partir du moment où on voit les choses qui sont belles, et le monde est beau, la France est belle, l'Europe est fantastique, on a une chance folle. Et je crois qu'il y a une conscience dans ce monde occidental de la beauté de notre environnement. Et donc c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience sur l'écologie, qu'on se bat, qu'on se mobilise. Mais en même temps, il ne faut pas dramatiser notre regard. Il faut, pour défendre une cause, il faut l'aimer. Et donc, pour l'aimer, il faut voir il faut avoir un regard juste et cultiver le regard du beau.
Sagesse de l'humanité aux éditions de la Martinière, au fil des songes, aussi un petit mot, peut-être Vincent Munier, donc cet ouvrage avec des textes de Charles-Élie Couture que vous avez réalisé avec votre père aux éditions Cobalan.
Oui, donc au fil des songes, moi j'aurais envie, c'est vrai que le Festival de Montier met un coup de projecteur sur les photographes, mais j'aurais envie aussi également de remercier et de rendre un peu hommage à tous les naturalistes et toutes les associations de protection de la nature, entre autres, et même aussi, par exemple, pour Au fil des songes, pour le Conservatoire des sites lorrains, tous ceux qui s'engagent un petit peu directement, qui sont sur la première ligne. C'est vrai que nous, on a tendance à mettre en valeur ces milieux-là, mais il faut dire qu'il y en a qui ont un combat qui est extrêmement difficile pour essayer de sensibiliser les décisionnaires, les politiques. Et voilà, c'est un petit hommage. Et c'est vrai que moi, ce livre, par exemple, c'est un outil qui va un peu essayer de les aider dans leur combat.
Alors, je peux vous renvoyer aussi au numéro de Terre Sauvage, hein, consacré au mois de novembre à spécial photo de nature. Donc, eux aussi sont partenaires de ce fameux festival. Je vais vous dire aussi que mardi prochain, vous aurez sur une théma sur Arte, ce carbone qui nous enfume. C'est un mini agenda. Donc, ce sera à 22h, ce carbone qui nous enfume. Il en fera absolument le point. Un grand merci à nos amis de France Bleu Champagne. Donc, un merci à Philippe Dousseau, son directeur, Stéphane Fabre, Julie Hérault, Anne de Hamorin. Merci à Marion Lelay, Jean-Christophe NASA, Valérie Ayesteraï qui réalisait l'émission, notre cyberdocumentaliste Anne Gouzon avec différents sites, et puis on se retrouvera la semaine prochaine avec Jean-Marie Pelt. On rénovera notre maison, ce sera donc un tout autre sujet. Merci à vous tous, amis de Montier-en-Der.